Chapitre 34. On m'a écrit que l'artiste est aux Amériques. Labourdin mettait toujours un pluriel pour désigner l'Amérique, convaincu qu'une expression englobant l'ensemble d'un continent faisait de lui un homme plus considérable. Monsieur Péricourt fut contrarié. « Il sera de retour à la mi-juillet », l'assura le maire d'arrondissement. C'est bien tard. Labourdin, qui avait anticipé la réaction, sourit. « Eh bien, pas du tout, mon cher président. Imaginez-vous qu'il est tellement enthousiasmé par cette commande qu'il s'est aussitôt mis au travail et il avance à pas de géant. Pensez, notre monument aura été conçu à New York, Labourdin prononçait New York, et réalisé à Paris. Quel magnifique symbole !» Avec une mine gourmande qu'ordinairement il réservait aux plats en sauce et aux fesses de sa secrétaire, il tira de sa poche intérieure une large enveloppe. « Voici quelques esquisses supplémentaires que l'artiste nous adresse. » Lorsque M. Péricourt tendit la main, Labourdin ne put s'empêcher de retenir l'enveloppe un court instant. « C'est plus que magnifique, président. Exemplaire !» Que signifiait cette surenchère verbale? Impossible de le savoir. Labourdin concoctait des phrases avec des syllabes, rarement avec des idées. D'ailleurs, M. Péricourt ne s'y attarda pas. Labourdin était un imbécile sphérique, vous le tourniez dans n'importe quel sens, il se révélait toujours aussi stupide, rien à comprendre, rien à attendre. M. Péricourt l'avait congédié avant d'ouvrir le pli, il voulait être seul. Jules d'Épremont avait réalisé 8 dessins, 2 plans d'ensemble sous un angle inaccoutumé, comme si vous vous étiez approché si près que vous regardiez le monument presque par en dessous, c'était très inattendu. Le premier montrait le pan droit du triptyque intitulé « France menant les troupes au combat », le second, le gauche, « Vaillant poilu chargeant l'ennemi ». Monsieur Péricourt en resta saisi. Le monument, jusqu'à présent statique, devenait tout autre chose. Était-ce ses perspectives inhabituelles ou le fait qu'il vous dominait, vous rapetissait et semblait vous écraser? Il chercha à qualifier son impression, le mot tomba, simple, presque bête, mais voulant tout dire, vivant. Voilà, c'était un qualificatif ridicule, il aurait pu venir de Labourdin, mais les deux scènes témoignaient d'un réalisme total, plus vrai encore que certaines photographies de guerre vues dans les journaux qui montraient les soldats sur le champ de bataille. Les 6 autres dessins étaient des gros plans de certains détails, le visage de la femme drapée, le profil de l'un des soldats, le visage qui avait décidé M. Péricourt à choisir ce projet n'y était pas. C'était rageant. Il feuilleta les dessins, les rapprocha des planches dont il disposait, passa beaucoup de temps à tenter de s'imaginer tournant autour du monument réel et même à se projeter à l'intérieur. On ne peut dire autrement, M. Péricourt commença à vivre dans son monument. Comme s'il avait une double vie, qu'il avait installé une maîtresse dans ses meubles et y passait des heures entières en cachette de tout le monde. Au bout de quelques jours, il connaissait si parfaitement son projet qu'il parvenait à l'imaginer sous les angles qui n'avaient pas été esquissés. Il ne se cacha pas de Madeleine, c'était inutile. Il y aurait eu une femme dans sa vie, elle l'aurait deviné au premier coup d'œil. Lorsqu'elle entrait dans son bureau, son père se tenait debout au centre de la pièce avec, au sol, tous les dessins étalés en ronde autour de lui, ou bien elle le trouvait assis dans son fauteuil, loupe en main, détaillant une esquisse. Il les manipulait d'ailleurs tellement qu'il craignit qu'elle ne s'abîme. Un encadreur vint prendre les mesures, M. Péricourt ne voulait pas se séparer des dessins, et apporta, le surlendemain, des vitres, des cadres, le soir, tout était terminé. Pendant ce temps, 2 ouvriers étaient venus démonter plusieurs pans de la bibliothèque afin de ménager des espaces d'accrochage. D'atelier d'encadrement, le bureau devint une salle d'exposition consacrée à une œuvre unique, son monument. M. Péricourt continuait de travailler, de se rendre aux réunions, de présider les conseils d'administration, de recevoir dans ses bureaux en ville les agents de change, les directeurs de ses succursales, mais il aimait, plus qu'auparavant, rentrer, s'enfermer. Il dînait généralement seul, on lui montait son repas. Un lent mûrissement s'était opéré en lui. Il comprenait enfin certaines choses, retrouvait des émotions anciennes, des tristesses semblables à celles vécues à la mort de sa femme, cette impression de vide et de fatalité dont il avait souffert à cette époque. Il s'adressait aussi moins de reproches concernant Édouard. En faisant la paix avec son fils, il la faisait avec lui-même, avec ce qu'il avait été. Cet apaisement se doublait d'une découverte. Entre le carnet de dessin d'Édouard lorsqu'il était au front et les esquisses de son monument, M. Péricourt parvenait à ressentir comme physiquement ce qu'il ne connaîtrait jamais, la guerre. Lui qui n'avait jamais eu d'imagination, éprouvait des émotions qui prenaient leur source dans le visage d'un soldat, dans le mouvement de la fresque. Il y eut alors comme un transfert, maintenant qu'il ne se reprochait plus autant d'avoir été un père aveugle, insensible, qu'il admettait son fils, sa vie, il souffrait davantage de sa mort. À quelques jours de l'armistice, comme s'il n'était pas déjà assez injuste qu'Édouard soit mort quand d'autres étaient revenus vivants. Était-il mort sur le coup, comme l'avait juré M. Maillard ? Parfois, M. Péricourt devait se retenir pour ne pas convoquer de nouveau cet ancien poilu qui travaillait quelque part dans sa banque afin de lui extorquer la vérité. Mais, au fond, ce camarade lui-même, qu'en savait-il réellement de ce qu'avait ressenti Édouard à l'instant de mourir ? À force de détailler l'œuvre à venir, son monument, M. Péricourt s'attacha de plus en plus non pas au visage étrangement familier que Madeleine lui avait signalé et dont il s'était si bien souvenu, mais au soldat mort, allongé à droite sur la fresque et au regard inconsolable de la victoire posé sur lui. L'artiste avait saisi quelque chose de simple et profond, et M. Péricourt sentit les larmes lorsqu'il comprit que son émotion venait de ce que les rôles s'étaient inversés. Aujourd'hui, le mort, c'était lui, et la victoire, c'était son fils qui posait sur son père ce regard douloureux, désolé à vous briser le cœur.